On est un petit peu en retard, il est presque 19h01 sur France Inter. Le journal avec Xavier Demagny. Bonsoir Xavier.
Bonsoir. Des chiffres qui donnent le vertige. Plus de 200 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Encore un record. Cinquième vague et deux ennemis, Delta et Omicron. Alerte d'Olivier Véran, lancée aussi aux non-vaccinés. Vous avez peu de chances de passer entre les gouttes cette fois-ci, dit-il. Mais il rapporte aussi plusieurs signes encourageants. On va en parler dans un instant. Le ministre de la Santé devant la commission des lois à l'Assemblée cet après-midi. Examen du texte qui prévoit la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Les députés passent en revue les 250 amendements, procédure express pour une entrée en vigueur le 15 janvier. Le Covid encore toujours à La Réunion, retour du couvre-feu et des attestations pour se déplacer de 21h à 5h du matin, ça faisait longtemps. Et puis nous serons aussi à Marseille aux urgences de la Timone. Aujourd'hui au sommaire également, début de 3 jours d'hommage à Desmond Tutu en Afrique du Sud. L'auto en solo, ce n'est plus à la mode, pensez à covoiturer, c'est ce que devront afficher les pubs pour les voitures à la télé. Le décès de la photographe Sabine Weiss, 97 ans, on réentendra sa voix. Et le dernier grand événement sportif avec beaucoup de public. Et avant au moins 3 semaines, le All-Star Game, c'est la fête du basket français. Au téléphone sonne ce soir, Corinne.
On rouvre le dossier de l'adoption internationale. Le nombre d'enfants adoptés à l'étranger s'effondre en France depuis 20 ans. Pourquoi ? Question de morale, d'argent, de rapport entre pays du Nord et du Sud. Une adoption internationale éthique est-elle possible ? On attend vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter. 2 Français contaminés toutes les secondes. Proportion saisissante donnée par le ministre de la Santé, auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale à propos du pass vaccinal. On va y revenir dans un instant. D'abord, arrêtons-nous sur ces chiffres du Covid. Ce tableau alarmant dressé tout à l'heure par Olivier Véran. Flambée des contaminations, plus de 200 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures et circulation express des variants Delta et Omicron. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
On commence à s'y habituer depuis quelques jours. Ce sont là encore donc des chiffres record.
Oui, après les 180 000 d'hier, 208 000 personnes infectées ce soir, cumulées avec les chiffres des jours précédents. Cela signifie, a dit le ministre de la Santé, qu'1 million de Français sont ce soir positifs au Covid-19. Un raz-de-marée. À raison de 3 à 4 cas contacts par personne infectée, environ 10% de la population est cas contact, a encore précisé Olivier Véran. Et bien sûr, ce n'est pas fini. Le nombre de cas double tous les 2 jours. Donc vendredi, on devrait être à 400 000. Un chiffre qu'on n'a toutefois pas prononcé Olivier Véran, tant il est stupéfiant. Heureusement, toutes ces personnes contaminées ne sont pas malades. Le boost de la 3e dose de vaccin marche et il y a énormément d'asymptomatiques, a souligné le ministre de la Santé.
Autre point rassurant, Sophie, le ministre a évoqué la question des hospitalisations.
Oui, en s'appuyant notamment sur des données britanniques, car outre-Manche, l'épidémie a 8 à 10 jours d'avance sur nous. Dans les hôpitaux français, la plupart des malades ont le Delta. Les cas d'Omicron commencent tout juste à arriver. Ils seront, si l'on en juge par la situation de nos voisins, moins nombreux qu'avec le Delta, moitié moins nombreux environ, et jusqu'à 70% en moins si on regarde la situation en Italie et en Espagne, a précisé Olivier Véran. La durée de séjour à l'hôpital est aussi plus courte qu'avant, avec un besoin d'oxygène moindre et d'intubation aussi moins important. Mais, a prévenu le ministre, même si Omicron est moins dangereux, avec 6 ou 7 fois plus de cas, ça se verra. Et pour les soignants, la menace de tsunami est hélas bien réelle.
Sophie Bécherel, on retrouve tous ces chiffres sur franceinter.fr, à lire aussi sur notre site le résultat des dernières modélisations de l'Institut Pasteur sur le variant Omicron. En réduisant rien qu'un peu nos contacts, on limiterait de moitié les hospitalisations, disent notamment les chercheurs. Olivier Véran défendait donc cet après-midi le nouveau projet de loi sanitaire devant la Commission des lois, projet dont la principale mesure est la mise en place du pass vaccinal pour lequel seule désormais une preuve de vaccination donc permettra de l'obtenir. William Delesseux, vous êtes à l'Assemblée pour Inter, bonsoir à vous.
Bonsoir Xavier.
Et cette mesure vise surtout à presser les indifférents plutôt que les sceptiques, a dit le ministre.
Oui, et depuis près de 5 heures maintenant, la commission passe en revue ce projet de loi, un tout premier examen en pleine trêve des confiseurs et une trentaine de députés dans la salle. Mathilde Panot de la France Insoumise, son groupe a déposé pas moins de 60 amendements.
Nous voilà donc convoqués un 29 décembre entre la bûche de Noël et les vœux du Nouvel An pour avaliser en un temps record votre décision de créer 2 catégories de citoyens dans notre pays. Les Français vaccinés d'une part et les non vaccinés ou les sans schéma vaccinal complet d'autre part.
essais non vaccinés sur qui effectivement va reposer toute la pression. Olivier Véran et la majorité assument leur stratégie. Un point de crispation, le contrôle éventuel de l'identité du détenteur du pass vaccinal. Le projet de loi prévoit qu'un restaurateur, par exemple, peut demander une pièce d'identité en cas de doute. Les députés, les Républicains sont contre et ont déposé un amendement. Bruno Ketel de La République En Marche assure qu'il s'agit d'une simple comparaison de l'identité et pas d'un contrôle.
On ne va pas au-delà de ça. Il faut surtout pas laisser à croire qu'une forme d'autoritarisme généralisé se mettrait en place. C'est pas du tout le cas.
Et durant cet examen, c'est finalement toute la stratégie de l'exécutif face à la pandémie qui est débattue, comme le système de jauge dès lundi, 5000 dehors, 2000 dedans. Mmh. Un principe jugé absurde par les communistes en tête. Attention aux décisions techno pas comprises sur le terrain. L'avertissement du député Sébastien Jumel. L'opposition qui a trouvé donc l'occasion ce soir de demander des comptes au gouvernement dans sa gestion de la crise.
William de les ce service politique d'Inter à l'Assemblée nationale avec Stéphane Beaufils qui assurait la liaison examen express du projet de loi et ses 250 amendements. Il sera lundi dans l'hémicycle. Objectif entrée en vigueur du pass vaccinal le 15 janvier. C'est l'une des conséquences de la pandémie, l'explosion des téléconsultations pour le médecin. Le projet de loi sanitaire contient aussi la prolongation de leur remboursement intégral et ce jusqu'à l'été. Toujours 5 millions de non-vaccinés en France et une opposition parfois radicale. C'est rien de le dire aux mesures que l'on vient d'évoquer. Plusieurs députés ont reçu des menaces de mort ces derniers jours ou ces dernières heures. Le député marcheur de l'Oise, Pascal Bois, dénonce pour sa part un incendie criminel à son domicile. Il avait déjà reçu des menaces de mort ces derniers mois. Toujours 5 millions de non-vaccinés, qui représentent d'ailleurs une majorité des admissions en soins critiques. À Paris, par exemple, 70% des patients en réa ne sont pas vaccinés, d'après Olivier Véran. Avec en toile de fond, toujours la même crainte en cette fin d'année, du manque de lits et de l'engorgement des urgences. Exemple à Marseille, reportage à l'hôpital de la Timone, Hugo Charpentier.
Dans un box allongé sur un lit, un homme d'une soixantaine d'années placé sous oxygène. Il est arrivé le matin même aux urgences. Auprès de lui, le docteur Gilly.
Alors racontez-moi un petit peu ce qui se passe.
J'ai embrassé mes petites filles, j'ai attrapé le corona. J'ai des difficultés à respirer. Il manque d'oxygène.
Vous n'êtes pas vacciné, c'est ça? D'accord, au zéro vaccin.
Grosse erreur, je ne suis pas fait vacciner.
Des patients qui regrettent de ne pas être vaccinés, c'est devenu une habitude aux urgences.
Et oui, ça arrive souvent, mais bon, maintenant c'est un petit peu trop tard.
Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux.
L'augmentation, elle est franchement sensible.
Juliette Freitag, responsable des services d'urgence dans les hôpitaux de Marseille.
Les gens ont été clairement contaminés durant cette période de fête et on a une cinquantaine de patients Covid par jour à prendre en charge aux urgences, ce qui est très lourd.
Et le personnel doit faire face malgré les absences, congés de fin d'année, démissions, arrêts maladie, tout ça compensé par des heures supplémentaires. Pour Clara Veuillet, infirmière depuis 9 ans, c'est beaucoup de fatigue et de lassitude.
Moi actuellement, au lieu de 8h-16h30, je fais 8h-19h. C'est ça qui pèse sur le moral.
Et les perspectives pour les prochaines semaines ne sont pas franchement bonnes. À la Timone, le service des urgences se tient même prêt à transformer des box en unité de réanimation.
France Inter à Marseille avec Hugo Charpentier.
Les conséquences toujours du Covid avec ce nouveau tour de vis à La Réunion.
3 semaines de couvre-feu pour contenir l'épidémie et ce à partir du 1er janvier. Flambé, là encore, dû au variant Omicron. Circulation exponentielle du virus, dit le préfet de Lille. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Ça va rappeler de mauvais souvenirs. Jauge dans les restaurants, les bars, les lieux de culture et de sport, mais aussi le retour des fameuses attestations de déplacement pour les réunionnais.
Oui, le retour du petit papier si on veut sortir pendant le couvre-feu entre 21h et 5h à La Réunion avec un motif valable, consultation médicale ou raison professionnelle par exemple. Le préfet interdit aussi les rassemblements culturels, sportifs, les fêtes dans les salles communales car le taux d'incidence atteint 740 cas pour 100 000 habitants, un record. Et même s'il est plus faible qu'en métropole, Jacques Billan, le préfet de La Réunion, pointe en conférence de presse un risque de saturation à l'hôpital.
Sur nos 89 lits de réanimation, 84 étaient occupés hier, un taux d'occupation de 95%. Nos équipes médico-soignantes nous ont lancé un cri d'alerte. Dans une île comme la nôtre, cette situation ne peut rester sans une réponse forte.
Car La Réunion pourra ouvrir quelques lits de réanimation supplémentaires en fermant 13 blocs opératoires, mais cette fois, Martine Ladoucette, la directrice de l'Agence régionale de santé, ne compte plus sur l'aide de la métropole.
Nous ne pouvons pas compter sur l'arrivée à nouveau de ce type de renfort parce que Omicron est déjà bien présent sur la métropole. Très concrètement, nous avons des hôpitaux déjà sous l'eau. Les possibilités d'entraide du personnel hospitalier des établissements de santé de métropole ne sont plus du tout les mêmes qu'elles ne l'étaient au mois de mars dernier ou au mois d'août.
Alors elle appelle à la vaccination car à La Réunion, seuls 2/3 de la population éligible présente un schéma vaccinal complet.
Prolongation en France de la fermeture des discothèques, 3 semaines de plus. Cela nous amène au 24 janvier quand la Grèce, elle, interdit la musique dans les bars pour le nouvel an. La fête sera moins sympa, cela va sans dire. Record de contamination encore ce soir aux États-Unis et au Danemark. Joe Biden et Vladimir Poutine vont s'entretenir au téléphone demain. Appel avant des négociations prévues début janvier, notamment sur l'armement nucléaire et la situation à la frontière russo-ukrainienne. En Russie où décidément rien n'est intouchable et encore moins les voix d'ici au pouvoir en place. Après la dissolution de l'ONG Mémorial prononcée hier, une autre branche de l'association, le Centre de défense des droits de l'homme, connaît le même sort, accusé de faire l'apologie du terrorisme et de l'extrémisme. Depuis 1989, l'organisation Mémorial était garante de la mémoire du goulag, des victimes du goulag et des droits humains en Russie. La Cour européenne des droits de l'homme demande la suspension de cette décision.
19h11 sur France Inter, la suite du journal de Xavier Demany. En Afrique du Sud, début de plusieurs jours d'hommage à Desmond Tutu.
Les obsèques de l'archevêque combattant de l'apartheid décédé ce week-end auront lieu samedi au Cap, cathédrale Saint-Georges. D'ici là, déjà de nombreuses cérémonies prévues ou rassemblements comme devant son ancienne maison à Soweto, sur place Claire Bargelès.
Plusieurs bougies ont été allumées pour honorer la mémoire de l'archevêque devant cette maison de Soweto où il a vécu à partir des années 70. Des voisins sont aussi venus se recueillir comme Paula.
Ce dont je me souviens, c'est qu'il était très vocal mais jamais agressif. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à son courage dans tout ce qu'il a accompli pour nous.
À ses côtés, Linda s'est aussi mise sur son 31 pour venir rendre hommage à un homme qui a, selon elle, toujours su rester humble.
Nous n'avons jamais eu peur qu'une fois devenu connu, il nous regarderait de haut. Il avait par exemple l'habitude de faire son jogging et lorsque j'ai commencé à travailler à l'hôpital, il me criait « Réveille-toi, réveille-toi, les patients t'attendent ». C'était vraiment quelqu'un de bon et de très jovial.
La maire de Johannesburg, Popalatse, qui appartient au principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a tenu à adresser un discours rassembleur pour cette figure qui rejoint Nelson Mandela au Panthéon sud-africain.
Nous avons eu la chance d'assister à leur parcours pour bâtir le rêve qu'ils avaient pour cette nation, le rêve d'une Afrique du Sud unie et réconciliée.
Le corps de Desmond Tutu reposera à partir de ce jeudi dans la chapelle ardente de la cathédrale Saint-Georges du Cap jusqu'aux obsèques organisées samedi. À Johannesburg, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
Plus d'une semaine de délibération à huis clos et un verdict encore une fois repoussé au procès de Ghislaine Maxwell. Le jury ne parvient pas à se décider sur l'innocence ou la culpabilité de l'ex-compagne de Jeffrey Epstein. Elle est jugée pour trafic sexuel à New York. En bref encore, l'un des plus importants groupes de presse en Norvège, paralysé par une attaque au rançongiciel. Impossible pour l'instant de publier les nombreuses éditions des journaux locaux. Une partie des serveurs sont complètement bloqués. On s'était habitué depuis le temps au message de prévention dans les pubs. 5 fruits et légumes par jour. Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ça concerne les réclames pour les produits transformés ou les boissons sucrées depuis 2007. À partir du 1er mars, Agnès Soubiran, ce sont les publicités pour les voitures qui devront en afficher aussi des messages comme ça.
Imaginez, Xavier, une pub pour un SUV flambant neuf roulant à pleine vitesse et tout à coup, ce petit message en bas de l'écran. Au quotidien, prenez les transports en commun. Autre message possible, pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo ou encore pensez à covoiturer. Eh bien, ces formules seront obligatoires dans 2 mois. Une mesure à mi-chemin entre l'interdiction pure et simple de publicité pour voitures que réclament les associations écologistes et la nécessité de soutenir les constructeurs au moment où ils doivent investir massivement dans l'électrique. Lionel Frenchkio est le président de Hyundai en France et il regrette que toutes les voitures soient mises dans le même panier.
On veut pousser les consommateurs à aller vers des véhicules plus vertueux. C'est complètement cohérent par rapport à la volonté d'améliorer l'environnement dans lequel on vit. Mais pour la première fois, voilà, il y a pas cette distinction-là, véhicule zéro émission versus véhicule thermique. Et c'est quelque chose que je regrette parce qu'effectivement, pour les citoyens français, pour les consommateurs, on est sur un pied d'égalité des véhicules essence et des véhicules électriques à batterie ou autres qui sont, en termes de mobilité, plus vertueux.
Et sur tous les supports, vous verrez aussi apparaître la mention hashtag se déplacer moins polluer. Et en cas de manquement, l'annonceur s'expose à une sanction. sanctions financières jusqu'à 50 000 euros.
Agnès Soubiran, je crois que vous rentrez à vélo. Merci beaucoup. Pas spécialement besoin d'un chandail dans certaines régions du pays aujourd'hui. Température d'une douceur exceptionnelle pour la saison. Dans le sud-ouest particulièrement, mais attention, dans les Alpes, des pluies soutenues sont prévues dans l'Ain, l'Isère, Savoie et Haute-Savoie. Redoux qui entraîne un fort risque d'avalanche pour ces trois derniers départements. Prudence donc si vous êtes en vacances à la montagne.
Raymond Depardon salue ce soir son regard rare et sa curiosité insatiable pour l'être humain.
La photographe franco-suisse Sabine Weiss, décédée hier à l'âge de 97 ans, née à Saint-Golf sur les bords du Léman. Elle était installée depuis longtemps à Paris. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Xavier.
Sabine Weiss avait fait l'objet de dizaines d'expositions reconnues jusqu'aux États-Unis. Elle était surtout la dernière représentante de l'école humaniste.
Oui, cette école dont vous connaissez aussi les Robert Doisneau, Édouard Bouba, Willy Ronis, tous embauchés au sein de l'agence RAFO. Comme eux, Sabine Weiss a saisi des instants de vie dans la rue, des baisers sur des bancs publics et surtout des visages d'enfants, souvent pauvres, sales, des morveux comme elle les appelait avec une infinie tendresse. Écoutez-la se confier à Isabelle Pasquier pour Inter, c'était au printemps dernier.
En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour les gens de la rue, les indigents, ça touche beaucoup. Je ne le voyais pas, la pauvreté. Je voyais le regard, je voyais quelque chose dans le personnage. Mais c'est maintenant que je vois, j'analyse les photos, je dis, mais mon Dieu, ces enfants étaient abîmés avec des choses déchirées, reficelées.
De trop jeunes mendiants, un regard saisissant, mais aussi des gravures de mode, car Sabine Weiss a été reconnue également pour son travail pour le magazine Vogue, ses portraits de Sagan, Bardot ou Deneuve. Elle aimait tous les visages qui racontaient une histoire et qui racontaient la société. C'était sa fierté, reconnaît-elle, avec un peu d'humour.
Je ne me pose pas tellement en avant, généralement, mais là, je suis très prétentieuse. J'aime beaucoup mon travail. Je trouve que j'ai bien travaillé. Parce que ce qui reste, ce n'est pas les photographies d'une usine, d'un lieu d'architecture, c'est pas ça. C'est des petites choses humaines que je redécouvre et qui me touchent.
Un portrait humaniste et sensible du XXe siècle. La grande rétrospective prévue à Venise en Italie à partir du mois de mars sera transformée en exposition hommage.
Hommage à Sabine Weiss. Merci beaucoup Amélie Perrier, la photographe dont on peut réécouter le dernier entretien avec Laure Adler. C'était en février dernier dans l'heure bleue. Ça se passe sur l'appli France Inter de votre téléphone ou franceinter.fr. Le championnat espagnol de foot n'est pas épargné par le Covid. 4 joueurs du Real Madrid et 3 du FC Barcelone, dont les Français Dembélé et Umtiti, ont été testés positifs. Chez nous, 2 matchs de préparation de l'équipe de France de hand pour l'Euro ont été déplacés pour la même raison. Et puis, tant qu'il est encore temps, profitons-en. Avant la nouvelle année, lundi, et les nouvelles restrictions, dont le retour des jauges, 2000 personnes maximum pour les rassemblements en intérieur, 5000 en extérieur. Ce soir, ça passe in extremis pour la fête annuelle du basket tricolore, le All-Star Game à la française. Les meilleurs joueurs du championnat, match de gala, 16 000 spectateurs attendus à Paris-Bercy où l'on retrouve Adèle Belloumri. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez la chance d'être sur place et de vivre un moment qu'on ne verra plus pendant au moins les 3 prochaines semaines, Adèle.
Oui, et le public se masse toujours devant les entrées de Bercy. Dans la queue, j'ai croisé Sylvain, par exemple, avec son maillot des Bulls de Chicago. Bon, c'est de la NBA, mais ce soir, c'est la fête du basket français. Et avec son fils, Evan, Sylvain espère passer une bonne soirée.
On vient voir les dunkers, on vient voir les gens qui shootent à 3 points. Je sais qu'ils jouent bien, voilà. Ça nous fait plaisir à tous les deux. Ah, il faut faire une grosse fête, là. Parce qu'après, on va être bloqué.
À l'intérieur, Xavier a offert pour Noël 2 places à ses 2 fils, dont Arthur, fan de basket, qui espère voir.
Un beau match de basket, je pense.
Et pourquoi pas être tiré au sort pour tenter le panier à 100 000 euros du milieu de terrain.
Il s'y est préparé. Et il est chaud.
Cette famille se dit chanceuse que le All-Star Game échappe de justesse aux restrictions de jauge Covid, comme explique la maman Marion.
Bah, on se rend compte déjà de la chance qu'on a que ce soit organisé et maintenu, qu'on puisse en fait le fêter en famille, qu'on puisse avoir quand même un spectacle de grande ampleur comme on n'a pas vu depuis longtemps et comme on ne verra pas avant quelques temps.
Alors ici, le show vient tout juste de démarrer avec des animations et un concours de skills, de dribble avant le début du concours à 3 points. Viendra ensuite le coup d'envoi à 20h15 entre la sélection France et la sélection monde des meilleurs joueurs du championnat français de basket. Et à la mi-temps, le mythique concours de dunk.
Adèle Belloumri avec Gilles Gallenaro à l'Accor Arena de Paris. Bercy pour ce grand show du basket français. Avant le retour des jauges, il n'y a plus qu'à mettre les 3 points, Corinne.
Voilà, c'était le journal de Xavier Demani. Merci Xavier. On reste ensemble jusqu'à 20h. Ce soir au téléphone sonne l'adoption internationale en question. Partout dans le monde, des collectifs d'enfants adoptés, devenus grands, demandent des comptes. Ils veulent avoir accès à leurs origines, connaître les conditions parfois illégales de leur adoption. Et en France, le nombre d'enfants adoptés à l'étranger s'est effondré. réinventer une adoption internationale responsable dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est possible? Appelez-nous au 01 45 24 7000. Allez, un œil sur le temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et c'est le retour de Sébastien Léas. Attention aux pluies, aux avalanches et aux crues sur le centre-est, Sébastien.
Oui Corinne, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie et l'Isère restent en vigilance orange jusqu'à demain. Des cumuls de pluie importants sont encore à craindre et ces pluies se produiront d'ailleurs jusqu'en haute montagne, parfois jusqu'à plus de 2700-2900 mètres d'altitude, ce qui aggrave le risque d'avalanche qui est fort de 4 sur 5. Et puis des crues sont en cours en ce moment sur l'Ain et la Doraval. Les services de Vigicrue surveillent étroitement la situation. Les autres tronçons du centre-est sont également sous surveillance puisqu'il pourrait gonfler rapidement à cause des pluies et de la fonte de la neige.
Alors temps calme, plus calme demain mais encore très doux Sébastien.
La perturbation qui nous concerne depuis hier et qui est d'ailleurs à l'origine de cette vigilance orange va enfin s'évacuer. Cette nuit sera encore pluvieuse entre les Ardennes, l'Alsace et Rhône-Alpes mais progressivement le temps va devenir plus sec. Demain après-midi, seules quelques gouttes résiduelles se feront encore remarquer entre l'Avesnois et le plateau lorrain. L'ambiance sera quand même bien grise demain matin sur la majeure partie du pays. Hormis sur les régions méditerranéennes, les Pyrénées et entre la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques où le temps sera largement ensoleillé. Au fil des heures, le soleil et les belles éclaircies vont gagner du terrain pour s'étendre sur toute la moitié sud jusqu'au bord de la Loire. Plus au nord, par contre, les nuages resteront bien compacts, même si quelques trous pourront percer entre la Bretagne et le bassin parisien. Et puis comme aujourd'hui, les températures maximales resteront 8 à 12 degrés au-dessus des valeurs de saison, avec 13 à 20 degrés jusqu'à 23-24 degrés sur le Languedoc et l'ouest des Pyrénées. Des records de douceur pourraient à nouveau être battus.
Merci Sébastien Léas de Météo France.